Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Louis. Depuis des millénaires, les humains comme vous et moi essayent de comprendre des phénomènes a priori mystérieux. Les changements de saison, la propagation d'une maladie, la gravité, etc. Ce qu'on a appris à faire face à un mystère, c'est des observations, collecter des données, et ensuite, à force de raisonnement, on finit par aboutir à une explication. Au cours des siècles, on est devenu confiant, en tant qu'être doué de raison, dans notre capacité à nous confronter aux limites de notre compréhension, méthodiquement et à force de logique. Aujourd'hui, on ne fait presque plus l'expérience de l'inexpliqué, alors qu'on sait qu'on peut dégainer à la moindre interrogation un moteur de recherche qui pourra nous livrer des connaissances et des explications encyclopédiques. Dans cet épisode, un résidu de mystère et trois personnes qui font face, chacune à leur manière, à des récits de rencontres paranormales. Bérangère, qui dit avoir été abductée par de petits êtres gris. Isabelle, psychologue clinicienne, et François, commandant de la Gendarmerie nationale. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
En 2012, il a fallu que j'en parle. J'avais besoin d'expulser le problème, je ne sais pas. Je me suis tue jusqu'en 2012 et après j'avais besoin de le dire. Et je me suis adressée à Stéphane Alix, que je connaissais. Journaliste d'investigation, c'est passionné pour tout ce qui est abduction. Abduction, ça veut dire enlèvement. Et c'est enlèvement par des êtres, par des extraterrestres. Ou pas, moi j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, on ne sait pas.
Je m'appelle Isabelle de Cocheco, je suis psychologue clinicienne. Je suis maintenant à la retraite. Et je m'intéresse depuis un certain temps à tout ce qui est d'ordre paranormal et particulièrement des abductions. C'est vrai que les ovnis, bon, je ne peux pas dire que j'étais hyper passionnée, ça m'intéressait, ça m'intriguait, bon, mais sans plus. Et quand on m'a parlé des abductions, là je tombais un peu des nues parce que je ne savais pas trop que ça existait. Et au début, il est vrai que je me suis dit en bonne psychologue que ça devait être vraiment des choses d'ordre psychologique, quoi. Je m'étais dit ça, je m'étais dit quand même, là-dedans, il doit y avoir du délire, ou il doit y avoir des mauvaises interprétations, ou des grandes hystéries. Enfin, voyez, j'avais plaqué mes catégories, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on peut passer à côté de plein de choses en plaquant des catégories dans lesquelles on est. J'ai entendu des histoires qui se répétaient, j'ai entendu des histoires qui avaient quelquefois des traits communs, qui sont des fois des détails, vous savez, des détails dont on ne parle pas forcément dans les YouTube ou dans les choses dont on parle de façon officielle.
Je suis le commandant François Catala, de la Gendarmerie nationale.
J'étais amené à m'intéresser aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, terme que je préfère à celui d'OVNI. En 2007, le Centre National Spatial a ouvert un site pour mettre en ligne toutes ses archives sur ce sujet-là. Je me suis, par curiosité, connecté à ce site et découvert que la grande majorité du fonds documentaire du Centre National d'études spatiales était constituée de procédure de gendarmerie. À l'époque affecté au service historique de la Défense, donc au château de Vincennes, j'étais en fait dans le lieu où étaient conservées ces archives. Donc je me suis intéressé à consulter ces archives donc in situ et j'ai découvert des récurrences présentes dans l'ensemble des témoignages, des éléments comme ça qui revenaient systématiquement. Je me suis dit que ces récurrences pouvaient éventuellement définir un profil d'un phénomène que l'on connaissait peut-être mal. Et donc je me suis lancé dans cette idée de profiler donc les phénomènes aérospatiaux non identifiés. J'ai fait partie 10 ans donc, du collège d'experts du GEPAN. Alors, les enquêteurs du GEPAN sont des bénévoles avant tout, avec pour la plupart, effectivement, des formations scientifiques, de nature donc à ne pas discréditer le témoin, encore une fois, qui est de nature à ne pas modifier ses propos et à s'approcher au mieux de ce que le témoin a pu observer.
En 97, je me suis réveillée une nuit et j'avais mon ex-mari sur la gauche. Et j'ouvre les yeux et je vois 2 petits gris au pied de mon lit. 2 petits gris, des petits bonhommes. On les appelle les petits gris, je sais pas, parce qu'ils ont le teint gris. Ils sont petits, ils ont des gros yeux, une grosse tête, des bras très longs, très maigres. Ils sont un peu difformes, hein. Enfin, c'est pas des humains, quoi. Et puis, j'étais paralysée de la tête aux pieds. J'avais que les yeux qui pouvaient bouger. Et ils m'ont soulevé sans bouger de leur place. Ils m'ont fait léviter le corps, donc à l'horizontale. Et puis, donc, je me suis élevée. Et ensuite, j'ai avancé en direction de la fenêtre fermée. Et ce qui m'a choquée, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas peur d'eux. Je regardais en me disant, mais je devrais avoir peur, quoi. On est en pleine nuit. Ils font intrusion dans ma chambre. Ils ont une sale tête. J'ai pas peur. Bon. Par contre, quand j'ai avancé vers la direction de la fenêtre fermée, là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, quand je vais toucher la fenêtre, il va se passer quoi? Je vais tomber? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça tournait en rond dans ma tête, enfin, ça allait très très vite. Et au moment où j'ai touché la fenêtre, hop, je sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvée sur une table froide, dans une grande salle blanche, tout était blanc, mais je sais pas où. J'étais sur la table et puis je me demande pas où je suis là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Toujours les petits gris sur la gauche. Et au pied de cette table, il y avait un être de la taille d'un humain qui avait une tête et des bras, qui avait l'air d'avoir une corpulence normale, mais que je ne voyais pas parce qu'il était trouble. Et au moment où j'ai vu, je l'ai reconnu. Malgré que je le vois pas, je le reconnais. Je sais que j'ai vu en 1980 au pied de mon lit aussi. À cette époque-là, je me suis réveillée en pleine nuit et j'avais un être que je ne voyais pas, enfin que je voyais mais que je ne distinguais pas, je ne savais pas les traits qu'il avait, je voyais qu'il avait une tête, des bras pareils, mais il était trouble. Et il agissait sur mon sexe. Il était collé à moi. Je ne sais pas comment, mais il était collé à moi. Et comme je ne savais pas ce que c'était, j'ai dit à ma belle-sœur, j'ai téléphoné à ma belle-sœur en lui expliquant ce qui m'était arrivé, j'ai dit « qu'est-ce que t'en penses ?» Et elle m'a dit « écoute, j'ai entendu parler de gens qui faisaient l'amour avec des fantômes. » Je dis, mais non, c'est pas un fantôme, je peux pas supporter que ce soit. Puis c'était pas un fantôme, pour moi c'était pas un fantôme. Alors comme je savais pas ce que ça pouvait être, je me suis dit, c'est mon ange. Voilà. Et puis j'en étais restée là. Et donc en 97, j'ai reconnu, je me suis dit, tiens, c'est lui. J'étais réveillée, ça je peux l'affirmer, j'étais réveillée. Et donc, en 97, il avait quelque chose dans la main, quelque chose de long et en métal, ça avait l'air d'être en métal, toujours. Et il me l'a rentré dans le vagin. Et là, ça m'a fait mal. Le moment où je vois où il me rentre quelque chose dans le vagin, il me fait une insémination artificielle. Il a pris mes ovules auparavant. Il a pris le sperme de mon mari. Ils ont fait une insémination.
Je me suis réveillée, je savais que j'étais enceinte. S'il se trouve qu'effectivement, je n'avais pas rapport avec mon mari puisque j'étais en instance de divorce. J'ai téléphoné au gynécologue pour aller la voir. J'ai pris un rendez-vous dans la journée. Quand je suis allée voir le gynécologue, il m'a dit « qu'est-ce qui vous arrive ?» Elle a vu à ma mine que ça n'allait pas. Je lui ai dit « je suis enceinte ». Et elle m'a dit « ah non, non, j'ai jamais eu de problème avec mon stérilet. C'est pas possible que vous soyez enceinte ». Je lui ai dit « si, je suis enceinte ». Et donc elle m'a auscultée, elle m'a dit « oups, le stérilet a bougé ». Donc on a fait des tests qui ont avéré que j'étais enceinte. De là, on a fait retirer le stérilet pour faire décrocher l'œuf. Et puis la clinique m'a dit « vous rentrez chez vous, dans 48 heures vous aurez fait une fausse couche, ensuite vous prendrez rendez-vous avec votre gynécologue pour voir si tout est bien parti ». Donc 48 heures après, j'ai essayé de voir ma gynécologue, elle m'a dit « alors ça s'est bien passé ?» Je lui ai dit « je suis toujours enceinte ». Donc il ne restait plus qu'une chose à faire, c'était l'IVG. Et le matin où j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste, je me suis levée, j'ai pris le téléphone, j'ai annulé le rendez-vous. Et là, il y a une voix qui me dit « c'est très bien, nous on est là pour mettre les enfants au monde, pas pour les tuer ». Et en fait, j'étais tellement heureuse d'être enceinte, alors que la veille, j'en voyais pas. Et ça non plus, c'est pas normal, quoi, je veux dire. La veille, j'ai prié pour m'excuser de tuer cet enfant, parce que je me culpabilisais, mais que c'était pas possible de garder cet enfant parce que je voulais absolument divorcer. Je pouvais pas continuer la vie que j'avais avec mon mari, c'était pas possible. C'était insupportable. Et d'un seul coup, je suis tellement heureuse d'être enceinte que je suis prête à rester avec mon mari encore 10 ans de plus. Non. J'étais heureuse parce que j'avais mon fils, mais si j'avais pas eu mon fils, ça aurait été insupportable.
Tout le monde n'a pas exactement la même histoire, mais on retrouve souvent des histoires presque caricaturales, des gens qui dorment la nuit, qui se réveillent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui s'introduit dans la pièce ou qui est déjà là, la sensation d'une présence, quelquefois le fait d'être de non seulement une sensation, mais un toucher, des gens qui touchent par exemple les jambes, qui soulèvent les couvertures, ou bien des visions d'êtres qui sont là au pied du lit, souvent deux ou trois. Et là, il y a une sorte de blackout, les gens ne se souviennent plus de ce qui s'est passé, et se retrouvent le lendemain, alors quelquefois avec une marque, ça peut arriver, quelquefois des douleurs, quelquefois les habits à l'envers, par exemple, ça s'est arrivé, ou bien avec... Et c'est arrivé aussi des gens qui se retrouvent avec des habits qui ne sont pas les leurs. Bon, c'est quand même étonnant. Alors après, on peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer qu'ils sont somnambules. Enfin, vous voyez, il y a plein d'explications possibles. Hein. Pourquoi pas? Mais voilà, des gens qui, de façon répétitive, donnent ce scénario. Avec, encore une fois, parfois des griffures, ou bien des traces, ou bien... Des cercles sur la jambe, sur le bras, sur les épaules, des choses comme ça. Et ces gens-là disent avoir été donc terrorisés par ces présences-là, ne se souviennent de rien, ou quelquefois se souviennent d'être allés dans une soucoupe, et c'est là où ça leur paraît complètement invraisemblable, d'être allés sur une table froide, et avec, quelquefois, mais pas toujours, hein, des êtres toujours gris qui leur rentrent des objets dans les parties intimes, ou bien dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux, voilà. Et ce qui fait très très peur, parce que là, il n'y a pas moyen de communiquer, ils sont paralysés, ils se demandent ce que c'est, enfin, c'est l'étrange de l'étrange dans tout ça.
J'ai rencontré aussi Isabelle Koshko, qui est psychologue clinicienne, qui fait aussi de l'hypnothérapie et qui m'a fait des hypnoses régressives pour savoir ce qui s'est passé. Donc déjà, la première question que j'avais besoin de savoir, c'est pourquoi j'ai pas eu peur de ces petits gris. Et là, on s'est rendu compte à travers l'hypnose que j'ai connaissais depuis que j'étais enfant. Et que vraisemblablement, les petits lutins que je voyais et que Myriam Belmire voyait aussi enfant, on ne se connaissait pas. Et que la première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a parlé des petits lutins que voyait enfant. Moi, j'ai eu un choc. Hein. Je me suis dit « Oups !» Parce que c'est pas moi qui lui ai raconté mon histoire. C'est elle qui m'a raconté. Et en fait, tout concordait alors que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, cette dame. Et donc, il s'avérerait que, pour pas faire peur aux enfants, ils se déguisent en lutin. Donc voilà pourquoi je les connaissais depuis que j'étais enfant. Ensuite, j'ai demandé comment j'ai fait pour passer à travers la fenêtre, parce que je savais que j'avais touché, qu'elle était fermée et qu'il allait se passer quelque chose. Et là, dans la régression, j'ai vu mon corps se transformer en milliards de petites billes. J'ai vu la fenêtre se transformer en billes. En fait, les billes se sont croisées. Et quand mon pied est passé de l'autre côté, il s'est reconstitué. Magique. Parce que quand on est en état modifié de conscience, on sait les choses, on les comprend, mais quand on revient, on n'a que des brides et je ne comprends pas toujours tout. Hein. Il faut qu'on démêle la sauce, mais ce n'est pas simple. Hein.
Pourquoi est-ce qu'on utilise l'hypnose avec des personnes qui disent avoir été abductées? Ben, c'est parce que certaines personnes, par exemple, comme Bérangère, par exemple, ont certains souvenirs, mais les souvenirs peuvent être flous. Les souvenirs peuvent être, un souvenir peut en cacher un autre aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains souvenirs qui, après, déboucheront dans l'hypnose sur autre chose. Alors, je vous raconte un petit peu comment ça peut se passer. Sachant que l'hypnose n'est jamais, on ne peut pas le prendre comme une vérité. C'est quelque chose qui est dans l'esprit des gens, qui vient dans l'esprit des gens et qui peut les aider à mieux comprendre, à mieux ouvrir des perspectives. Par contre, dans l'hypnose, quand on voit des gens qui sont abductés et que systématiquement, il y a des sortes de prolongements dans l'hypnose, on peut penser que c'est lié quand même à l'abduction. Ce qui peut être prolongé, c'est après le moment où il y a ce blackout. C'est-à-dire où les gens voient au pied de leur lit, par exemple, des petits êtres et puis, pouf, tout d'un coup, il n'y a plus rien. On essaye d'aller au-delà de ce moment-là. C'est une proposition qu'on peut faire. En général, on le décide à deux. C'est-à-dire que la personne me dit, moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Par exemple, je me souviens de quand j'avais 4 ans, j'ai vu une grande lumière dans la pièce à côté, j'y suis allée, puis tout d'un coup, pouf, je me suis retrouvée le lendemain, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette lumière, je ne sais pas ce que c'était que ce truc-là, etc. On discute entre nous, et moi, je fais une proposition, je dis, on peut essayer d'y aller voir, en hypnose. OK. Là, c'est une aventure personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la personne qui va aller voir, ressentir. Et ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que vraiment, il y a une reviviscence de ce qui s'est passé, ou de ce qu'on pense qui s'est passé. Et là, par exemple, la personne qui, à l'âge de 4 ans, donc a vu une lumière bleue, mettons, dans la pièce à côté, peut dire « je ne peux pas passer la porte, il y a quelque chose qui m'empêche, etc. » Mon rôle à moi sera de rassurer la personne et de lui dire que, par exemple, elle peut être dans un endroit confortable où elle peut voir à côté, derrière la porte, ce qu'il y a, par exemple. Il y a bien souvent une interdiction d'aller voir. Et les gens le disent d'ailleurs, les gens disent « mais je ne peux pas, on m'interdit d'aller voir, on m'interdit ». C'est très curieux ça. Ou alors des gens ont une sorte de brouillard, « je ne peux pas franchir le brouillard », par exemple. Soit c'est des portes fermées, soit c'est du brouillard, etc. Ils ne peuvent pas. Donc, on essaye de faire des échappatoires pour essayer d'y aller voir quand même.
Dans les archives de gendarmerie, à 11 reprises, j'ai lu des témoignages décrivant effectivement des êtres que le témoin a rencontrés, plus ou moins proches, mais souvent assez une rencontre assez rapprochée effectivement. L'intérêt, disons, de ces descriptions est qu'elles se recoupent parfaitement. À ma connaissance, je n'ai pas identifié qu'elles avaient été publiées. On peut difficilement parler d'un effet de reproduction, d'un témoignage marquant par les témoins. Donc à l'époque, dans cet intervalle des années 50 à 70, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les moyens de communication que l'on connaît aujourd'hui. Donc la diffusion d'un modèle d'observation de créatures est difficilement envisageable. Mais nous avons effectivement toujours le même profil. Les témoins décrivent essentiellement des êtres de petite taille, avec la tête posée directement sur leur corps. Ils ne voient pas de cou apparent. Les yeux sont en forme d'amande, très effilé et légèrement oblique de part et d'autre d'une sorte de petit nez. La peau est de couleur mastic, couleur grise, voire même parfois dissimulée donc derrière un casque. Ce sont des êtres de très petite taille, puisque au maximum dans les témoignages, on peut relever la taille d'un mètre. Certains ont pu même comparer ces petits êtres à des sacs de pommes de terre. Ce sont des êtres qui émettent des gargouilles, apparemment. Pas de langage particulièrement développé, semble-t-il. Mais en communiquant entre eux, donc voilà, cette sorte de gargouille a été rapportée quand même plusieurs fois. Et ce sont des êtres dont le regard est dit perçant, provoquant des conjonctivites. Bon, mais ça, après, c'est le témoin qui déclare cela. Ils auraient ressenti des picotements dans leur organisme, et notamment au bout de leurs doigts. La réaction oculaire, c'est ce que j'appelle, moi, peut-être improprement, une sorte de conjonctivite, semble persister de longues semaines après une observation.
J'aime être seule, parce que je vis mieux seule qu'avec des gens qui ne nous écoutent pas, ou qui sont en train de parler des soldes, on s'en fout, quoi, je veux dire. Vous voyez, nous, on est vraiment dans le terre-à-terre. On est vraiment dans le terre-à-terre. Moi, j'aime les arbres, j'aime la nature, j'aime les fleurs, et je me fous des soldes, voilà. Et malheureusement, les informations télé, radio, c'est épouvantable. Non, je préfère m'isoler. Alors, je lis plus maintenant, parce que je travaille beaucoup, même si je suis à la retraite. Mais quand je lisais que des histoires vraies. La seule chose qui m'intéresse, c'est les histoires vraies. Alors, j'ai lu la vie des saints, j'ai lu des gens qui racontent leur histoire, des Indiens, tout ce que vous voulez, du moins que c'est vrai. Le reste, non, j'ai pas envie. Voilà. Mais lire les mondes imaginaires, non, je... Ah si, j'ai lu Harry Potter, parce que tout le monde a lu Harry Potter. Et parce que c'est drôle. Mais non, sinon, je lis pas... J'aime bien les histoires... tout ce qui est terre à terre.
CLINRESC est un institut de recherche sur tout ce qui est paranormal et extraordinaire. Le livre de CLINRESC est une somme explicative de tout ce qui est d'ordre paranormal. Et moi, j'ai participé à un chapitre sur les possessions. Et les possessions, évidemment, on peut penser à tout ce qui est de l'ordre des hallucinations, de la schizophrénie, etc. Et ce côté-là, justement, ce côté où le paranormal se frotte un petit peu à tout ce qui est d'ordre psychiatrique, ça m'intéresse parce que il y a tellement d'autres formes d'explication possibles que la psychiatrie. On ouvre là un champ, à mon avis, qui est considérable et qui est extrêmement intéressant. Parce qu'on peut avoir des champs explicatifs totalement différents, selon, par exemple, la religion, selon l'ethnie, selon les croyances, etc. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, c'est l'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les gens expliquent le monde à travers des croyances, à travers des ressentis, et finalement, ça marche aussi bien. Je veux dire par là qu'un chaman peut autant peut-être guérir quelqu'un que ce que on pense être, par exemple, un schizophrène. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Parce que vraiment, on s'aperçoit que tout est relatif, tout est lié au contexte, tout est lié au rapport entre les humains, tout est lié de la façon dont on comprend le monde, en fait.
Suite à tout ça, en 2012, il a fallu que j'en parle. J'avais besoin d'expulser... le problème, je ne sais pas. Je me suis tue jusqu'en 2012 et après, j'avais besoin de le dire. Et je me suis adressée à Stéphane Alix, que je connaissais. Journaliste d'investigation, c'est passionné pour tout ce qui est abduction. Abduction, ça veut dire enlèvement. Et lui m'a donné les coordonnées de Nicolas Dumont, qui est un psychologue clinicien, hypnothérapeute, et qui, avec Myriam Belmire, a créé le Sérofrance. Sérofrance, c'est une association qui est dans l'entraide et qui a des gens qui ont été abductés, donc qui ont été enlevés, et qui ont besoin de parler. Parce que, à qui dire, j'ai été enlevé par des extraterrestres, ça c'est pas possible. L'association, eh bien, c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui nous écoute, en fait. Moi, ça m'a sauvé la vie, et je suis pas la seule, hein. Je ne suis pas la seule à qui ça a sauvé la vie. On était vraiment... Enfin, moi, j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus travailler, où je m'occupais de mes enfants, mais je n'y arrivais pas vraiment, où j'étais très, très mal, j'étais dépressive.
J'avais pris 20 kilos. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait vraiment que j'expulse cette chose qu'il y avait en moi. Et on pense beaucoup, dans l'association, on pense qu'on nous a empêchés de parler. C'est-à-dire qu'on nous a bridés, mais ça ne posait pas de problème. C'est-à-dire que j'en parlais pas pendant 15 ans, sans savoir pourquoi. Mais c'était comme ça. Je me posais pas de questions. Et puis en 2012, il a fallu que ça sorte. Mais j'étais pas la seule. Il y a plein de personnes qui sont venues et qui ont, à ce moment-là, eu besoin de raconter tout ce qu'ils ont vécu. Quand j'ai eu ces aides, je savais pas ce que c'était. Et c'est après que j'ai compris que c'était les petits gris parce que j'ai lu le livre de Stéphane Alix. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que John Mack, qui est un psychiatre, lui, américain, avait aidé des gens et que toutes ces personnes qui ont été abdictées, qui ne se connaissent pas à travers le monde, disent la même chose. Donc il se passe bien quelque chose, mais quoi, on n'en sait rien.
John Mack est un psychiatre qui a, justement au début, il n'y croyait pas, et en ayant entendu des tas de témoignages, s'est mis à vraiment rechercher et à montrer que les gens qui racontaient ces histoires-là avaient non pas des caractéristiques de type psychotique, justement, mais plutôt de type post-traumatique. Comme on peut retrouver des gens qui, après la guerre, ont eu des symptômes. Alors lui, il parlait des GI, mais nous, à la guerre 14, on a eu les mêmes types de traumatismes. Et c'est vrai que quand on interroge, on retrouve ce même genre de choses, c'est-à-dire des gens qui sont hyper inquiets tout le temps, toujours sur le qui-vive, qui supportent pas, par exemple, des bruits brutaux, qui n'arrivent pas à s'endormir, qui doivent dormir avec la lumière allumée, qui ne supportent pas certaines caractéristiques d'un environnement particulier, ou bien même certaines couleurs, ou bien même certains sons. Vous voyez, ça, c'est des caractéristiques que l'on retrouve avec les gens qui ont subi du traumatisme. C'est des symptomatologies extrêmement particulières et qui sont propres à chacun, mais qu'on retrouve quand même, hein, qu'on retrouve parmi tous nos adhérents. Hein. En général, d'ailleurs, quand on pose la question, enfin, nous, on a un peu un protocole dans nos entretiens. On retrouve bien souvent les mêmes choses.
On s'est rendu compte au CERO que tous les abductés avaient des paranormalités, mais on ne sait pas si tous les gens qui ont des paranormalités sont abductés. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important à dire. C'est comme si le fait de sortir de... Ben, je sais pas, de rentrer en contact avec ce monde parallèle, parce que je pense que c'est un monde parallèle, je vois pas comment ça peut être autrement, enfin j'en sais rien, hein. C'est moi qui dis ça, on n'a aucune preuve. Hein. Mais le fait de rentrer dans ce monde parallèle, c'est comme si ça nous ouvrait quelque chose à nous, et ça nous donne ces facultés de voir des fantômes ou d'entendre des choses que personne d'autre n'entend. Moi, pendant un temps, j'entendais la pensée de mon mari, les pensées de mes enfants. Mais ça, c'est affreux, hein. Ça, c'est terrible. Je disais, mais merde, quoi, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, j'ai dit stop, je voulais plus, ça s'est arrêté automatiquement. J'ai mis un frein parce que c'était trop... C'est trop compliqué, on a l'impression de rentrer dans leur intimité, ça c'est pas bon, quoi. Et mes enfants, ils étaient en pleine adolescence, donc il y a des fois où ça, ils me disaient, elle me fait chier, celle-là, voilà. Sauf que j'entendais, je me disais, comment ça, je te fais chier? Et ils me disaient, mais comment tu sais, d'abord, comment tu sais? Et je me disais, merde. C'était à la fois rigolo, mais en même temps, ça me dérangeait d'entrer dans leur intimité, donc j'ai dit, non, faut que ça s'arrête, et ça s'est arrêté aussitôt. Mais voilà, c'est des choses comme ça, ou de voir des gens décédés, ça j'en ai vu, et... ou de savoir, d'entendre quelqu'un qui me dise bah lui, dans un mois, il est mort. Et moi, de me dire, comment ça, dans un mois, il est mort. Et puis d'apprendre qu'il est mort dans un mois. Enfin, c'est terrible.
On avait fait des statistiques il y a quelque temps de ça. Et c'était des gens qui avaient autour de là, 40, même 50 ans, 60 ans. Mais on peut avoir des jeunes aussi, on peut avoir des jeunes. Des gens viennent après un parcours de vie, hein, bien souvent, c'est le cas. C'est comme si cette histoire s'était enquistée dans leur vie. Il y a quelqu'un qui nous a dit, un monsieur qui nous a dit, mais j'ai pas parlé de ça pendant 50 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait fait sa vie, il avait fait ses enfants, etc. Et cette histoire-là était restée comme une sorte de kyste, hein, dans sa vie. Quelque chose qui s'était passé, qu'il avait jamais compris, il avait jamais compris ce qui s'était passé. Après, soit ça prend de l'ampleur, ou soit, Quelqu'un en parle et ça fait tilt. Il y a des gens qui nous ont dit, quand ils ont entendu Myriam, par exemple, témoigner, ils ont été effarés et tout leur est revenu. C'est arrivé, il y a des gens qui nous disent ça. Ou en regardant un film, ou en lisant un truc, un bouquin. Il y a quand même des gens à qui on pense qu'il est arrivé une abduction, mais qui ont eu dans l'enfance une enfance difficile. Ça, c'est vrai, on le reconnaît. Pas toujours, c'est pas toujours le cas. Mais il y en a un certain nombre qui ont eu une enfance difficile. Alors, soit avec une enfance assez triste, abandonnique, ou bien une enfance où il y a de la violence. Ça, c'est vrai qu'il y a, des gens avec des enfances comme ça. Alors, on pourrait se dire, eh ben voilà, c'est les traumatismes dans l'enfance qui sont ensuite sublimés ou qui sont ensuite transformés en abduction, etc. On était donc 5 enfants. Maman nous a élevés toutes seules après son divorce. Donc moi, je n'ai pas connu mon père et ça ne m'a pas manqué puisque je ne sais pas ce que c'est d'avoir un papa. La vie était dure et elle y arrivait, il n'y avait pas de problème. Hein. Elle nous a élevés très très bien. Et elle avait des paranormalités, c'est-à-dire qu'elle voyait des fantômes. Quand elle était jeune, elle faisait tourner les tables avec sa mère. Et puis mon grand-père, lui, jouait avec le pendule tout le temps. C'était rigolo, j'en ai un bon souvenir d'ailleurs. Et bah, tout allait bien, quoi. Hein. Je veux dire, c'est difficile de dire, mais moi, j'estime que j'ai eu beaucoup beaucoup d'amour. De maman, de mes frères et sœurs, donc j'étais épanouie, hein, heureuse.
Un argument que j'entends beaucoup, c'est des gens qui ont une personnalité de type imaginaire, etc. Est-ce que c'était des enfants qui, d'une manière générale, étaient dans la lune ? Moi, si vous voulez, je peux entendre tout ça, mais je dis, un, ça n'explique pas tout. Et deux, si on s'enferme déjà dans quelque chose que l'on croit savoir en tant que théorie, ben on se ferme à beaucoup de choses. C'est ça qui me gêne un petit peu quand j'entends des théorisations catégoriques. Je trouverais ça trop bête de balayer ça d'un revers de main en disant « mais c'est de l'imaginaire, mais non, mais les gens sont cinglés, etc. » c'est trop bête de faire ça parce que ça fait rien avancer du tout. D'abord, ça laisse les gens dans leur marasme. Et puis, deuxièmement, je trouve que le cerveau et la conscience... C'est maintenant le champ à explorer. Enfin, c'est extraordinaire. C'est le champ à explorer. Donc là, mais servons-nous de ça. Essayons de faire des hypothèses. Essayons de rationaliser tout ça. Mais tant que ça restera moqué et que ça restera sans qu'il y ait vraiment de vraies études là-dessus, bah, on n'avancera pas, quoi.
Je suis croyante, ouais. C'est très important. Et puis j'ai eu comme une extase, mais j'arrive pas à expliquer non plus. Donc je pense que c'est un rapport avec ça. Je pense que tout ça, c'est la même chose. Je peux pas mettre des mots dessus parce que je sais pas de quoi on parle. Mais Marie, par exemple, on dit que Marie, elle était vierge avant, pendant, après. Ben maintenant, je me dis que Marie a peut-être été abductée. Et que Jésus est un humain avec un ADN modifié qui lui a donné des capacités hors normes, quoi. Je veux dire, mais c'est tellement naturel en parlant comme ça. Je trouve que c'est tellement bien comme histoire. Alors mes enfants, ils marchent pas sur l'eau. Hein. Je me suis adressée à Marie, Jésus et Dieu. Hein, quand je suis tombée enceinte de mon dernier, j'ai prié Marie, je me suis excusée auprès de Jésus. Enfin bref, bien sûr, ils ont toujours été là. Mais quand je pose une question, je pose une question à l'univers, en fait, tu vois. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ça? Et j'ai une réponse. J'ai l'impression que ce qu'on voit n'existe pas. J'ai l'impression que c'est comme si on était dans un... Je sais pas. C'est difficile à expliquer. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans le monde qu'on croit être, en fait. Je crois qu'on voit que ce qu'on a envie de voir, mais que si on faisait attention, on verrait bien plus de choses. Est-ce que tous ces films de science-fiction ne sont pas faits pour nous ouvrir les yeux aussi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est eux qui nous influencent ou est-ce que c'est... C'est nous qui nous... Je sais pas, j'en sais rien.
Après avoir passé effectivement 10 ans au sein du GEPAN, si vous voulez, mon sentiment est multiple. D'une part, il y a effectivement un certain nombre de méprises qui peuvent affoler un témoin, et ce témoin doit être rassuré. Donc, pour ce faire, le GEPAN, je dirais, a une mission d'utilité publique. De notre côté, il y a effectivement des témoignages qui résistent, disons, plus durement à une analyse tout à fait sérieuse que l'on peut produire. Ce qui me fait dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière tout cet amas de témoignages, il y a peut-être quelque chose effectivement à étudier. En tout état de cause, mon expérience au GEPAN a contribué, s'il était nécessaire, à ouvrir l'esprit sur l'humain d'abord, hein, en tout premier lieu, ouvrir mon esprit sur l'humain, et pour moi c'est un sujet d'étude peut-être un peu particulier, néanmoins c'est un sujet d'étude, donc on étudie, on rassemble les éléments, on les analyse, on établit des hypothèses et éventuellement on vérifie ces hypothèses, mais voilà, ça s'arrête là. Il faut se garder de toute croyance débridée ou toute passion peut-être malvenue qui pourrait nous conduire effectivement à perdre pied dans la réalité.
Les abductés ont dit, notre vie c'est un puzzle, et à chaque fois qu'on trouve l'emplacement d'une pièce, ça change le dessin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une réponse, on a 10 fois plus de questions.
Cet épisode de Passage a été tourné par Stéphanie Thomas. Le montage, la réalisation et le mix ont été réalisés par Axel Guénoun. À très vite.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.